Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 24 décembre. Le premier décès à cause du Covid aux hospices civils de Lyon. Lounis Gana, 61 ans, est décédé des suites d'une infection au coronavirus. Il travaillait depuis 42 ans à l'hôpital Édouard Herriot. Le Conseil d'État a rejeté les recours des cinémas et des théâtres qui demandaient leur réouverture. Les chiffres du Covid en ce qui concerne le département du Rhône ces dernières 24 heures. Laurent Wauquiez a dressé lui son premier bilan de la campagne régionale de dépistage. 625 000 tests, 29 000 cas positifs détectés. Depuis quelques années, l'urbanisme de transition a le vent en poupe. Nous nous rendrons aujourd'hui du côté de la Halle des Girondins, située à Gerland, gérée temporairement par Plateau Urbain. Et puis football, l'Olympique Lyonnais termine l'année sur une belle note en s'imposant 3-0 face au FC Nantes. Les Lyonnais sont même leaders.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un aide-soignant des hospices civils de Lyon est décédé hier après plusieurs semaines passées en réanimation. Il travaillait depuis 42 ans à l'hôpital Édouard Herriot. Lounis Gana, 61 ans, est décédé des suites d'une infection au Covid-19. Il laisse derrière lui une femme et un garçon de 16 ans. La victime avait fait part de ses inquiétudes dès les premiers symptômes. Il estimait que les dysfonctionnements l'avaient conduit à contracter la maladie. S'il y a eu une faille, il faut qu'elle soit repérée et qu'elle ne se reproduise plus. La CGT réclame que la maladie professionnelle de Lounis soit reconnue. Yasmina Ménoir, sa compagne, se réserve elle le droit de déposer plainte. C'est le premier décès à cause du Covid aux hospices civils de Lyon. L'état de santé d'Emmanuel Macron, testé positif jeudi dernier au Covid-19, présente des signes d'amélioration, selon l'Élysée. Cas contact du chef de l'État, le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée Richard Ferrand sont sortis hier d'isolement après avoir été testés négatifs. Le Conseil d'État a rejeté le recours des cinémas et des théâtres qui demandaient leur réouverture. Les lieux culturels resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier. La campagne de vaccination débutera en France, je le rappelle, ce dimanche à Sevran et Dijon. Le nombre de contaminations quotidiennes est en hausse à la veille de Noël en France. 14 929 personnes testées positives en 24 heures. On recense également 278 décès en 24 heures. Le niveau des hospitalisations, lui, est stable. 1006 personnes atteintes du Covid-19 sont prises en charge dans les hôpitaux du département du Rhône, contre 1039 la veille, mais le virus circule toujours. On dénombre 43 nouvelles admissions de patients Covid+, ces dernières 24 heures, dont 12 dans les services de réanimation. 145 personnes sont en réanimation. Au niveau du département, après 10 nouveaux décès enregistrés ces dernières 24 heures, le nombre de patients morts à l'hôpital s'élève à 1788 depuis le 1er mars. Laurent Wauquiez a dressé un premier bilan de la campagne régionale de dépistage. Plus de 625 000 tests réalisés lors de la campagne de la région. Près de 29 000 cas positifs ont été détectés. Le taux de positivité est de 4,1%. 1312 centres de dépistage ont été déployés sur le territoire jusqu'à ce mercredi. La région souhaite poursuivre les tests dans les lycées au mois de janvier.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
C'est une halle industrielle construite en 1832. La date de sa construction est d'ailleurs inscrite sur une pierre de façade. Longtemps utilisée par les usines Gilouetz et Richier, spécialisée dans la fabrication de matériel de levage et de grues à tours, la structure, qui a encore fière allure, est désormais occupée par 25 entreprises de l'économie sociale et solidaire, artisans, TPE, bureaux d'études. Depuis quelques années, l'urbanisme de transition a le vent en poupe, à tel point que certains acteurs ont vu le jour et ont fait de la gestion de ces lieux leur activité. Nous avons rencontré Aurélia Thomé. Elle nous présente Plateau Urbain, en charge de l'exploitation temporaire de la halle dite des Girondins.
Plateau Urbain, c'est une coopérative d'immobilier solidaire qui est spécialisée dans l'urbanisme transitoire et donc qui monte des projets en ville, dans les espaces vacants de la ville, pour les mettre à disposition de porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire, des artistes, des artisans et des jeunes entreprises.
Alors un exemple concret ici, cette halle des Girondins qui est une ancienne halle de construction de grues dans le temps et qui devient aujourd'hui un espace de l'ESS, hein, c'est ça ? Comment ça s'est monté ?
Ce projet, c'est un projet qui a été porté à l'initiative de la Serle, qui est donc propriétaire et aménageur de la ZAC des Girondins. Le Plateau Urbain a fait une première étude pour vérifier la faisabilité de cette occupation temporaire et ensuite on a monté un projet, un appel à candidature pour exploiter ce bâtiment et pouvoir accueillir du coup aujourd'hui 25 structures associatives de l'ESS et artisans artistes.
Comment s'opère justement le choix de ces structures qui sont accueillies ?
Ça a été un projet aussi très en partenariat avec la métropole, avec le projet Gerland et avec la Chambre des métiers qui nous a aussi accompagnés sur ces sujets d'artisanat. et donc on a fait un appel à candidature très ouvert. Ensuite, les personnes se positionnent en fonction de leurs besoins de mètres carrés et puis en fonction de l'usage dont ils ont besoin. Et ensuite, il y a eu un jury partenarial pour échanger sur les porteurs de projets sélectionnés.
Quels sont les services que vous proposez au-delà d'offrir un toit, entre guillemets ?
Premièrement, on répond aux besoins clairement d'un besoin d'espace de travail, mais c'est des projets aussi collectifs et collaboratifs. Et ça, c'est vrai que c'est bien spécifié dès l'appel à candidature qu'on va gérer ensemble le bâtiment et partager entre ses voisins de bureau, mais aussi avec le quartier. L'idée étant qu'on puisse s'ouvrir aux habitants et aux salariés du quartier.
Quels sont les avantages et les inconvénients de cette occupation provisoire ?
Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais en tout cas, ce qu'on sait dès le début, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Et donc, le projet s'arrête en janvier 2022. Donc, on sait qu'on dispose de ces 19 mois. Ça a ouvert au 15 juin. On a été un peu retardé par le confinement. Mais du coup, on sait qu'on a ce temps-là pour gérer ensemble, pour créer des liens, pour créer des projets, tous ensemble sur le quartier des Girondins.
Quelques exemples d'occupants, que font-ils ?
Alors, ils sont très chouettes déjà, je tiens à le dire. Alors, en bas, en fait, on a aussi une typologie de bâtiment spécifique. Donc, en bas, il y avait une ancienne halle de stockage qui a 4,50 m de hauteur de plafond. Donc, ça nous a permis de créer des ateliers pour des activités plutôt artisanales, qui avaient vraiment besoin de hauteur de plafond, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire dans de l'immobilier de bureau classique. Donc, du coup, en bas, on a des scénographes, on a des constructeurs fabricants, on a des artistes muralistes, une céramiste, je voudrais oublier personne, évidemment, et 5 essences qui fait des jus de fruits et de légumes frais. Et en haut, il y avait des anciens bureaux de l'entreprise qui était là précédemment. Et donc, du coup, on a plutôt accueilli des activités de bureau avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme la Maison de l'Apprendre, Imagineo et Nacteus, qui travaillent sur des sujets d'éducation, notamment, mais aussi Co-Recyclage, qui fait du réemploi de mobilier de bureau, l'épicerie séquentielle, dont vous avez entendu parler, qui publie les rues de Lyon, Ciel Bleu, qui fait de l'activité physique adaptée, Auticiel, qui travaille sur des sujets de troubles cognitifs et d'accompagnement, et Archipel, qui fait de la médiation culturelle et de l'éducation à l'image. On a aussi ouvert un troisième petit espace artisanal, plus léger, où là, on va retrouver une fabricante de marionnettes, des artistes, des jeunes entreprises comme La Pousse Verte. Et j'ai oublié, évidemment, mes trois structures, j'y pense, là, qui font vraiment de l'agriculture urbaine et de la sauvegarde de plantes, qui sont Ma Ville Verte, Le Gardien des Plantes et La Pousse Verte.
Et chez Plateau Urbain, comment vous repérez ces friches ?
C'est plutôt des rencontres, parce qu'en fait, il y a des millions de mètres carrés vacants. Du foncier vide, il y en a. La question, c'est qui a envie de faire ? Et donc, c'est plutôt des rencontres avec la Serle, notamment, mais ça peut être avec plein de partenaires publics ou privés qui ont des bâtiments vides, qui sont en attente de réhabilitation, par exemple. Donc, on sait qu'il va y avoir 2-3 ans avant que le projet de réhabilitation soit mis en place et donc qui ont envie d'utiliser ce bâtiment pour accueillir des structures.
On parle beaucoup de ces tiers-lieux, ces espaces de coworking. On n'a pas très loin également le 107. Comment vous vous inscrivez par rapport à toutes ces structures ?
Le 107 ou EVA, c'est des personnes avec qui on discute, on travaille et effectivement, c'est chouette de voir la diversité de projets et de comment on retrouve de la place en ville pour des projets qui ont un impact social. Donc voilà, il y a, je pense, beaucoup de place pour plein de chouettes projets qui permettent de travailler autrement, de vivre autrement, de consommer autrement aussi. Et je pense qu'on porte tous pas mal ces sujets-là ensemble et dans chacun de nos projets.
Et en tout cas, pour les occupants, c'est un véritable choix. On ne vient pas ici simplement par dépit, parce que c'est moins cher, par exemple.
J'espère pas. Non, c'est vraiment... en tout cas, on échange beaucoup. C'est des personnes avec qui, au moment des appels à candidature, on explique bien comment on fonctionne. On a mené plusieurs projets. En tout cas, c'est des questions qu'on aborde de se dire c'est pas juste du bureau pas cher et qui serait clé en main en plus, parce que c'est pas ça, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, le projet. C'est un peu ce que je dis, on fait la grosse boîte, on accompagne ensuite les liens et la facilitation, mais la vie au quotidien, elle est faite vraiment ensemble et avec chacun met la main à la pâte, on aménage ensemble, etc. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de participer, d'avoir envie de partage et de collaboration pour venir dans des lieux comme ça.
Il y a encore beaucoup de lieux, vous le disiez tout à l'heure, d'urbanisme transition. Il y en a encore beaucoup à Lyon qu'on pourrait exploiter.
Il y a plusieurs projets qui se sont montés récemment, ces dernières années, qui sont l'autre soi, qui sont l'Halle du Faubourg, un projet à la Duchère, il y en a d'autres, il y a le Fort, il y a eu plusieurs projets d'occupation temporaire, et je pense qu'aussi et partout en France, qui sont inspirants, et donc je pense aussi qu'on va réfléchir peut-être un peu plus comme ça, en se disant ok, on a ça de vacant, à côté de ça on a beaucoup de besoins de porteurs de projets, qu'est-ce qu'on a envie de voir dans nos quartiers, comment on a envie d'utiliser ce bâtiment qui existe et qui pour le moment ne sert à rien. Il y a plein plein de façons de travailler en modèle économique, de travailler sur les objectifs de ces occupations temporaires ou transitoires. Donc oui, je crois qu'on avance pas mal sur ces sujets-là, c'est chouette.
Quelles sont vos relations avec l'aménageur? Ici, à Gerland, c'est la Serle. Pour l'aménageur, c'est quoi? C'est une façon de rentabiliser ce terrain qui n'est pas exploité? C'est de le gardienner? Ou est-ce que ça va dans des démarches un petit peu plus, je dirais, de co-construction?
Ça a été vraiment une démarche de co-construction, ce projet de la Halle Girondin. On a réfléchi ensemble. On fait un peu les occupations temporaires en marchant, enfin en avançant, en réfléchissant ensemble et en étant aussi très ouvert, en fait, en réfléchissant, en disant qu'est-ce que ça peut accueillir et de laisser le plus ouvert possible. Et c'est quand même là où on a le plus de bonnes surprises et d'usages qui se dessinent. Et donc c'est vrai que l'aménageur s'est rendu compte que cette halle était en bon état, qu'on pouvait l'utiliser plutôt que d'avoir plusieurs années de barriérage de chantier. Et à côté de ça, qu'il y a beaucoup, encore une fois, hein, beaucoup de porteurs de projets qui cherchent de la place en ville. Et donc c'est vrai qu'on a pu travailler ensemble sur premièrement une étude de faisabilité et ensuite de réussir à monter ce projet pour ces prochains mois. Donc c'est vraiment du partenariat et de la co-construction qui a été faite. Ça a aussi permis d'ouvrir un espace temporaire qui n'est pas encore ouvert, pardon, mais qui va l'être, qui permet d'avoir aussi un espace pour le quartier qui va se construire au printemps prochain.
Merci Aurélia.
Merci beaucoup.
Aurélia Thomé, coordinatrice territoriale, pour en savoir plus sur Plateau Urbain et peut-être installer votre activité dans un lieu atypique, rendez-vous sur plateau-urbain.com.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Football en Ligue 1, les Lyonnais ont terminé l'année sur une belle note en s'imposant 3-0 face au FC Nantes, sur un score qui aurait pu être bien plus large. Un succès qui permet à l'Olympique Lyonnais de monter sur la première marche du podium en devançant Lille au goal average. Les Verts, largement dominateurs, ont mené face à Monaco, réduit à 10, mais ils se sont fait rejoindre. Résultat, l'AS Saint-Etienne est allé faire match nul à Monaco de partout. Raymond Domenech est le nouvel entraîneur du FC Nantes jusqu'au mois de juin. Après l'éviction de Christian Gourcuff le 8 décembre, le Lyonnais est missionné pour assurer le maintien du club. En basket à l'ASVEL, Foll absent pendant au moins 2 semaines, touché aux côtes mardi soir contre le CSKA Moscou. Le meilleur joueur de l'ASVEL ratera au moins la réception de Gravelines samedi en championnat de France et le déplacement à Istanbul pour y affronter le Fenerbahçe 4 jours plus tard. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. Exceptionnellement, pas d'édition demain vendredi pour cause de Noël. On se retrouve bien sûr dès lundi pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents et bonne fête.